soir, de moins en moins d'essence dans les stations-service. Le conflit s'est durci encore aujourd'hui avec notamment l'intervention musclée du côté de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Durcissement également dans la rhétorique, hein, illustrant de plus en plus le bras de fer entre le gouvernement et la CGT. C'est vrai qu'un syndicat, principalement, est à la manœuvre contre le projet de loi travail adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Alors cette question toute simple, la CGT fait-elle la loi en France ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors la CGT, hein, dans la première partie des décodeurs de l'écho, ils auront la parole, il y a un de ses représentants qui est sur le plateau, hein, vous allez le découvrir dans un instant. Et puisqu'on parle de blocage, puisqu'on parle d'attractivité en baisse, hein, pour la France, bah, tout n'est pas mauvais. Au contraire, vous le verrez, hein, Seb qui achète un géant allemand, Safran et Air France KLM qui créent une usine dans le Nord avec plus de 200 emplois à la clé. Tout à l'heure à 20h, on se posera cette question, pourquoi peut-on croire malgré tout au potentiel de la France ? Allez, la CGT, les blocages, les raffineries, évidemment, ce conflit qui se durcit. On va en parler au décodeur de l'écho. Mohamed Oussedik, il est secrétaire confédéral de la CGT en charge de l'industrie. Bernard Vivier est avec nous tout naturellement, bien sûr, c'est le directeur de l'Institut supérieur du travail. Nicolas Perruchot, ancien député du Loir-et-Cher, auteur d'un rapport sur l'argent des syndicats. Et puis le chef d'entreprise Jean-René Boidron à la tête de Caméléon. Oui, c'est une start-up, on en parlera tout à l'heure, on lui donnera la parole aussi à Jean-René Boidron. Alors, blocage des raffineries et illustration, je vous le disais, de ce dialogue de sourds, de cet affrontement à distance entre le pouvoir et la CGT. Tenez, Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, il était ce matin sur BFM TV et RMC.
Le gouvernement et le Premier ministre en particulier jouent un jeu dangereux. Essayer de diviser la CGT, essayer d'opposer la CGT aux citoyens, essayer d'opposer la CGT aux salariés. Il faut le rappeler, et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, je vous ai écouté, les grèves se votent à la majorité des salariés dans les raffineries, avec des scores qui sont sans appel, 80%, 70%. C'est ça notre conception de la démocratie. Et on le sait bien, parce qu'on essaye d'opposer certains salariés entre eux, dans les entreprises. Dans certaines entreprises, c'est très difficile d'agir.
Alors ça, c'est Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, donc sur BFM TV et RMC ce matin. Et puis François Hollande, le président de la République, prenait la parole un petit peu plus tard sur France Culture. Il dénonce, eh bien, le pouvoir d'une minorité.
Ça ne veut pas dire négliger ce qui se passe. Ça ne veut pas dire considérer que ça ne mérite pas une forme de respect par rapport à ceux qui ont des revendications légitimes. Mais ça ne me conduit pas non plus à accepter ce qui est aujourd'hui un blocage qui est fondé simplement par une stratégie portée par une minorité.
Voilà, une minorité, donc le mot utilisé par le président de la République sur France Culture. Bernard Vivier, est-ce qu'on a souvent entendu ce type de les bras de fer d'invective à distance? Oh, j'aurais pu citer Manuel Valls aussi, toujours depuis Jérusalem, il est reparti normalement. Il évoque un syndicat dans une impasse qui prend en otage les consommateurs et l'économie du pays. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de contact entre la CGT et le gouvernement? Ils sont obligés de passer par les médias, par les télés, par les radios?
Oui, en grande partie. Et ce manque de contact entre une organisation syndicale, d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales et le gouvernement, assez curieusement pour un gouvernement de gauche, il ne date pas du mois de mai 2016. C'est au moment de la préparation de la loi travail portée par le ministre El Khomri que le déficit de contact préalable s'est exprimé et s'est vu. On l'a vu, le gouvernement a dit « je vais faire du 49-3 », on a vu des organisations syndicales et patronales consulter, mais pas véritablement aborder pour préparer un texte qui les concerne, patronat et syndicats. Donc nous avons eu un paysage, une relation qui était distante. Et aujourd'hui, nous avons, c'est pas la seule raison, bien évidemment, c'est même probablement pas la raison majeure de l'attitude de la CGT, mais nous avons une CGT qui a le fil coupé au téléphone ou en direct avec le gouvernement. Si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé, la réforme des retraites 2007, 2008, 2009, 2010, on avait un Bernard Thibault à la tête de la CGT qui avait le contact permanent avec l'Élysée. Ils avaient même, Nicolas Sarkozy et Bernard Thibault, peut-on utiliser l'expression, mais pas loin, dis-les. Hein, je fais ma réforme, signé Nicolas Sarkozy, et je te laisse tes régimes spéciaux, tes fonctionnaires, à l'abri de l'essentiel de la réforme. Par contre, l'inquiétude a été canalisée par la CGT, qui a monté de fortes manifestations d'opposition, mais sans jamais monter des actions violentes et de casse.
Oui. Mohamed Ousseidik, pourquoi ce blocage? Pourquoi la CGT n'a-t-elle pas envie, eh bien, de prendre son téléphone, de discuter, de rétablir le contact avec le gouvernement, plutôt que de voilà se chicorer sur les télés, les radios? Enfin, ça fait un petit peu désordre. Hein.
Non, mais je vois bien qu'il y a... Il y a une ambiance qui est un climat qui est créé autour d'une, entre guillemets, une organisation syndicale qui veut tout bloquer, qui n'a pas envie de dialoguer, et puis un gouvernement qui lui souhaiterait négocier, dialoguer. Je rappelle simplement d'abord que c'est pas l'affaire de la CGT face à un gouvernement, c'est l'affaire d'une opinion publique qui rejette majoritairement une loi à plus de 70%, je crois encore, dans les derniers sondages.
L'opinion publique, il ne va pas tarder à vous rejeter vous-même. Hein.
Bah, peut-être que vous prédisez, vous avez une boule de cristal, mais moi, je n'en ai pas. Pour l'instant, je vous dis que et c'est durable, ça fait 2 mois et demi que ça
vient. Voilà.
Ça fait 2 mois et demi que ça dure, que l'opinion publique rejette massivement cette loi parce qu'elle n'a pas convaincu sur le fond, et c'est d'abord ça qui est primordial. C'est un gouvernement qui n'a pas convaincu dans sa propre majorité, qui est obligé de passer par le 49-3, et c'est un gouvernement qui ne se remet pas en cause et qui n'a jamais dénié négocier avec les organisations syndicales. Je rappelle que lorsque il y a 2 mois, cette loi est arrivée par la presse, puisqu'elle est arrivée par la presse dans le débat public, eh bien, toutes les organisations syndicales, toutes, y compris celles qui aujourd'hui sont pas dans le mouvement, ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de concertation, de négociation sur cette loi. Donc aujourd'hui, le schéma, il est un peu plus difficile qu'une organisation syndicale contre un gouvernement. Il est en réalité un rejet massif de la population, voire des organisations syndicales, puisqu'on est quand même pas mal dans cette affaire-là. On est 7 organisations syndicales aujourd'hui qui sont engagées dans un mouvement. Face à une politique d'un gouvernement qui campe droit dans ses bottes et qui ne souhaite pas malheureusement discuter ni encore moins négocier.
On a l'impression simplement, Bernard Vivier, il y a plusieurs organisations syndicales qui sont contre la loi travail, hein, Mohamed Ousseidik le dit, mais est-ce que la CGT n'a pas pris le pouvoir sur ces organisations, sur les autres organisations syndicales?
Non.
L'ascendant, en tout cas.
Non, vous avez aujourd'hui 2 blocs syndicaux qui, effectivement, ça a bien été dit, étaient globalement très inquiets, réticents, prudents, ne sachant pas ce qui allait sortir du chapeau gouvernemental. Et puis, au 31 mars, ça s'est tourné le 31 mars, il y a eu 2 blocs. Il y a eu un bloc qui a accepté le principe de la réforme après en avoir vu le contenu et qui a agi pour en modifier le contenu, l'améliorer dans le sens syndical. CFDT, CFTC, CFECGC, UNSA. Et puis un bloc d'opposition très fort, CGT, Force ouvrière, FSU et l'Union syndicale solidaire Sud. Aujourd'hui d'ailleurs, Force ouvrière est plus prudent, hein, ne veut pas se laisser embarquer dans des opérations médiatiquement dangereuses pour son
image. Ça veut dire quoi? Vous dites quoi? Que la CGT est seule en ce moment à croiser le fer?
Non, elle n'est pas seule.
On voit des drapeaux Force ouvrière devant les raffineries aussi.
Oui, bien sûr, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, mais on sent que les jeux des confédérations ne sont pas aussi solides qu'il y a seulement 15 jours ou 3 semaines. On le voit, Force ouvrière a une tradition de négociation bien plus forte qu'une tradition de grève. Cela étant, la CGT aussi a une tradition de négociation. Et c'est toute la difficulté. Et on arrive au cœur du sujet. C'est-à-dire que Philippe Martinez, à son congrès, a durci le ton.
C'était il y a deux mois.
Il a durci le ton parce qu'après 2 années, 3 années
l'affaire
très difficiles,
bien sûr, la destitution,
il fallait ressouder les équipes. Voilà, et il a affirmé. Mais il a installé une équipe qui n'est pas une équipe équilibrée entre protestation et négociation. Et il a durci l'équipe.
Les ultras ont pris le pouvoir à la CGT.
On pourrait presque le dire ainsi. C'est-à-dire, oui, une ligne dure, une ligne de contestation, de radicalisation, et non pas négociation, alors que, rappelons-le, Philippe Martinez lui-même n'est pas un jusqu'au boutiste. Oui. Philippe Martinez, il l'a montré dans sa fédération de la métallurgie, oui. C'est un homme solide, de parole, qui sait négocier et tenir ses engagements. Mais on a une CGT qui aujourd'hui n'a pas eu le débat dans son congrès sur sa direction, c'est-à-dire sur la ligne adoptée pour l'avenir.
Et avec une fédération de la chimie, c'est-à-dire les raffineries, hein, qui est... beaucoup plus dur que les autres, qui est réputée pour être la plus...
Oui, vous avez à l'intérieur de la CGT deux fédérations, l'agroalimentaire et la chimie, qui adhèrent toutes les deux, c'est une image, mais qui est très parlante, très illustrative, qui adhèrent toutes les deux au niveau mondial à la Fédération syndicale mondiale, dont le siège, quand l'Union soviétique régnait sur la moitié de l'Europe, avait son siège à Prague. Hein, moi-même, je suis allé assister à des congrès de la FSM, c'était à Berlin-Est, à Moscou, je suis allé à Prague. Bon, aujourd'hui, un dernier congrès s'est tenu à Damas, le prochain se tiendra cette année à Durban, mais ils envisageaient aussi Tripoli. Donc tout est dit dans la géographie.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est rassurant.
C'est un syndicalisme. voilà. Et donc évidemment,
il y a des jeunes qui vous écoutent quand même. Donc ils se souviennent pas de tout ça.
Ils se souviennent peut-être pas de tout ça, mais
d'actualité.
La fédération se réclame. Cette fédération de la chimie se réclame aujourd'hui de la fédération syndicale mondiale, d'un syndicalisme de lutte de classe et de masse.
Nicolas Perruchot, on a entendu Mohamed Oussedic il y a quelques instants en disant oui, c'est le gouvernement qui finalement n'écoute pas, qui dégaine son 49-3. C'est quoi alors l'attitude de la CGT? Elle fait du chantage? Retirer une loi adoptée par l'Assemblée nationale? Ou je fais une grève? Vous m'avez pas assez écouté? Vous m'avez pas assez entendu? On fait de la grève? On fait de l'occupation? On bloque des raffineries, c'est ça?
Je crois que d'abord, la première difficulté, ça a déjà été dit, c'est la méthode Hollande. On en est là aujourd'hui parce que je pense que François Hollande n'a pas pris la mesure évidemment de la façon dont il engageait ce texte de loi El Khomri. Je pense que il a prôné en arrivant à l'Élysée une méthode forte sur le dialogue social, une méthode rénovée, une méthode de rupture en quelque sorte avec ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy et puis patatras, il s'est pris pas simplement un mur mais plusieurs fours. Je me souviens des conférences sociales où très souvent pas simplement la CGT, mais un certain nombre de syndicats ne souhaitaient pas participer quelques heures ou quelques jours avant la mise en œuvre de ces conférences. Et il y a eu, je pense, un échec cuisant depuis le démarrage, parce que à la fois François Hollande a menti aux syndicats et il a voulu les utiliser. Et je pense qu'on est là au cœur de la difficulté. Il s'est appuyé depuis très longtemps, depuis le début de son quinquennat, sur la CFDT, ignorant que la CGT est quand même une organisation très puissante, très organisée et qu'elle tient un certain nombre de secteurs clés, le ferroviaire, les transports maritimes et les raffineries. Et on est en train évidemment de s'apercevoir, on pourrait parler du transport aérien par exemple aussi, mais on est en train de s'apercevoir effectivement de ces difficultés-là. Donc je pense que la première responsabilité, c'est la sienne. Ensuite, effectivement, il y a l'attitude de la CGT. Bernard Vivier vient de le dire, Martinez, c'est pas Le Pen. Et il y a eu évidemment un changement de ligne. On reprochait à Le Pen de ne pas avoir de ligne claire et d'être plutôt quelqu'un d'assez mou, sans parler de quelqu'un de consensuel. Il a été limogé assez dans des conditions qu'on connaît toutes et tous. Mais
l'histoire des travaux dans son appartement. Voilà.
Oui, enfin, c'était une histoire interne à la CGT, puisque c'est sorti de la CGT. C'est la CGT qui a souhaité que Thierry Le Pen s'en aille, en réalité. Philippe Martinez, c'est pas Thierry Le Pen, encore une fois. C'est une ligne beaucoup plus affirmée. On l'a vu au Congrès de Marseille, c'est une ligne dure. Et bien entendu, il fallait se ressouder sur quelque chose. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas, on a le sentiment que la CGT, telle qu'on ne l'aime pas dans ce pays, en tout cas, est en train de renaître.
Oui, on verra justement ce que cherche exactement la CGT. Nicolas Perruchot, qui est avec nous, donc auteur d'un rapport sur l'argent des syndicats, élu centriste du département du Loir-et-Cher. Jean-René Boidron, chef d'entreprise à la tête de Caméléon. Comment est-ce qu'on en arrive à une telle confrontation? Comment est-ce qu'à partir de cette loi El Khomri, on en arrive à un tel bras de fer entre le gouvernement, la CGT et au milieu, les Français, les Françaises qui ont du mal à trouver de l'essence?
Ouais. Moi, je suis pas complètement surpris. En tout cas, je suis un peu surpris qu'on soit surpris parce que quelque part, depuis 30 ans, moi, j'aurais qu'on me donne une loi, notamment une réforme qui concerne le travail, qui n'aurait pas mis dehors et donc dans des manifestations des syndicats et autres. Donc, quelque part, oui, on peut dire la méthode Hollande a pas marché, mais j'ai pas vu beaucoup de gouvernements qui, depuis 30 ans, ont eu des méthodes qui ont marché. Et donc, quelque part, on revient toujours au départ sur le fameux dialogue social à la française. On a beaucoup de qualités en France, on a aussi beaucoup de défauts, et quand vous parlez à tous les pays européens autour de nous, le principal défaut qui est pointé du doigt, c'est on aime bien les débats, la rhétorique, la théorie, les postures, mais quand il s'agit de régler les problèmes, ben on n'est pas là, et il n'y a plus. Et donc j'observe avec tristesse,
DIY sur l'attractivité.
Exactement, j'observe avec tristesse. Donc Bernard Vivier, tu pourras en parler. Donc visiblement un historique et donc une expérience qui date de l'Andrette.
Il a connu la Tchécoslovaquie. Mais
exactement. Le dialogue social revient à chaque élection. Donc on a un président ou en tout cas des candidats à la présidence qui nous disent que ils vont donc rénover, ils vont s'appuyer sur les corps intermédiaires que sont les syndicats. Et puis finalement ils peuvent pas s'appuyer. Donc quelque part on arrive quand même dans cette situation aussi parce que il y a un moment il faut avancer et si on veut avancer sans même parler de réforme, la loi El Khomri est quand même relativement modeste dans ses avancées.
Elle sera pas décrétée.
Il y a quand même des choses dedans. Enfin, en tout cas, entre la réforme de départ et celle à l'arrivée, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus modeste. Et je vois d'ailleurs que, on a quand même, vous disiez, tous les syndicats sont contre. Pas du tout. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, on a quand même un paquet de syndicats, donc quatre syndicats quand même majeurs, qui ont accepté cette réforme. Donc, moi, le premier constat que je fais dans cette histoire, c'est qu'on a encore un dialogue social à la française qui ne marche pas. Et quand je vois, ou quand j'entends plutôt, les candidats à la présidentielle qui s'exprime aujourd'hui, je ne donne pas cher du dialogue social en 2017 ou 2018 pour le candidat qui passera. Parce que, écoutez, les candidats, notamment à la primaire,
on
parle d'ordonnance, on parle de réforme dans les 6 mois, parce que finalement, on n'arrive jamais à faire passer la moindre réforme en France.
Bernard Vivier, qu'est-ce qu'il y a exactement derrière la stratégie de la CGT, de Philippe Martinez? Est-ce qu'il y a vraiment un bras de fer entre deux hommes, Martinez versus Valls, où il y a une stratégie pour la CGT qui a peur de perdre son leadership? Elle est toujours première dans les élections professionnelles, les derniers gros scrutins, je crois, de 2013. Il y aura des scrutins importants fin 2016, début 2017, je ne sais plus. La CFDT était à quelques encablures. C'est une façon pour elle de s'affirmer un petit peu plus?
C'est pas le choc Martinez-Valls qui compte. C'est pas ça la question. Même si effectivement l'affaiblissement de l'autorité du gouvernement actuel, dans les sondages, dans les faits aussi, facilite évidemment des initiatives nerveuses et actives et une occupation du terrain et l'affirmation d'une certaine façon d'une autorité. Une autorité syndicale et non pas gouvernementale. Mais la question de fond, elle est là. Effectivement, c'est une CGT qui reste une très grande organisation syndicale. Et le pays, disons-le, a plus besoin d'une CGT qui évolue qu'une CGT qui s'affaisse. Si la CGT s'affaisse aujourd'hui, eh bien, on va avoir des phénomènes nuit debout, des phénomènes de délitement du tissu social. Une organisation syndicale, comme une organisation patronale, ça s'appelle un corps intermédiaire, c'est-à-dire entre l'État qui effectivement peut tout gérer, la loi, l'ordonnance, mais on caporalise la société, et une société qui n'est pas organisée, on a une structure. Donc la CGT aujourd'hui, c'est une belle organisation. Elle a besoin d'évoluer.
Pardon, Bernard Vivier.
Mais elle ne le fait pas.
C'est quoi une belle, une bonne CGT? On a compris, il faut une CGT forte, pour éviter justement des mouvements pas forcément contrôlés et contrôlables, style Sud, Nuit Debout, et puis tout ce qui s'ensuit, bien entendu. Mais en même temps, est-ce que ça doit être une CGT qui occupe des raffineries, des dépôts d'essence, qui embête la vie des Français, clairement.
C'est une CGT qui négocie, et dans les faits, la CGT négocie. C'est un chiffre qu'il faut rappeler
régulièrement.
Dans les entreprises. Dans les entreprises, là où elle est présente, la CGT signe 84% des accords qui lui sont présentés. L'autre jour, je rencontrais un des dirigeants de la Fédération de l'agroalimentaire. Donc des
fédérations dures, comme la chimie.
Eh bien, c'est un des champions de l'action paritaire avec les autres organisations syndicales, avec le paritarisme, pour faire vivre des systèmes de complémentaire santé, de prévoyance, parce que ce sont des garanties collectives. Et ce dirigeant qui a un discours très très dur a aussi une pratique réformiste, une pratique de négociation. Syndicalisme CGT, il négocie. Et dans les faits, beaucoup plus encore qu'il y a 30 ans.
Oui. Mohamed Oussedic, l'un des responsables nationaux de la CGT, vous avez perdu ces dernières années quelque part de marché, l'EDF, à la RATP, à la SNCF. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que la CFDT passe devant vous? C'est la raison pour laquelle vous montrez un petit peu plus les muscles, les crocs ou pas?
Non, bon, d'abord, je suis très ravi d'apprendre beaucoup de choses sur la CGT soir, parce que c'est intéressant de connaître sa propre organisation. Moi, je ne connaissais pas Prague.
En 1895.
Prague et la Tchécoslovaquie à l'époque. Simplement, je voudrais simplement quand même qu'on remette les choses à leur place. Les salariés français, puisqu'on parle quand même de salariés dans ce pays, en France, qui sont dans un mouvement, qui sont dans un mouvement contre une loi dont ils ont vu les effets.
Salariés du public ou du privé, Mohamed Ousseydik?
Ils sont du privé aujourd'hui.
On les voit pas beaucoup, c'est du
privé. Les raffineries, ce sont des salariés du privé. Les routiers, ce sont des salariés du privé qui vivent le dumping social. Lorsque vous avez des caissières qui sont payées aujourd'hui au SMIC, c'est-à-dire à 10 euros, qu'on leur dit demain une heure supplémentaire, elle va pas être payée 10,25 euros, mais elle va être payée 10,10 euros au nom de la compétitivité de leur entreprise, vous comprendrez que ça peut susciter une certaine colère chez ces salariés-là. Donc, remettons les choses à leur place. Il ne s'agit pas de débats internes à notre organisation syndicale ou de je ne sais quelle stratégie pour garder le leadership, etc.
C'est important quand même.
Il s'agit simplement, au jour d'aujourd'hui, il s'agit simplement d'une méthode, dans le dialogue social qui n'a pas fonctionné parce qu'un gouvernement s'est entêté à vouloir faire passer une loi contre l'avis d'une majorité de Français, d'une majorité de salariés, d'une majorité parlementaire, une loi qui ne convient à personne. Donc c'est ça, c'est d'abord ça le cœur du sujet. Ensuite, il y a, on pourrait nous dire qu'effectivement, il y a l'organisation syndicale CGT qui, entre guillemets, aurait une stratégie. Bien entendu que nous avons une stratégie. Nous avons une stratégie. La stratégie, c'est celle d'ouvrir aux autres organisations syndicales, ce que nous avons fait. Nous avons proposé à l'ensemble des organisations syndicales d'avoir une plateforme commune. On a signé un texte avec la CFDT où on a demandé solennellement au gouvernement
des modifications.
D'ouvrir des négociations. Chose qu'il a tout de suite refusée. Il n'y a pas eu une seule séance de négociation avec le gouvernement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous a répondu ? On nous a répondu, de toute façon, on va diviser le camp syndical. On nous a répondu avec des histoires tacticiennes. On ne répond pas à un projet de société avec de la tactique. On répond à un projet de société avec du dialogue social et de la négociation. Et au jour d'aujourd'hui, les salariés qui sont en grève ne bloquent pas. Ils sont en grève. C'est-à-dire que dans une raffinerie, ce sont des assemblées générales, ce sont des informations qu'on donne aux salariés et ils décident. Et je peux vous garantir qu'un salarié qui décide, lorsqu'il doit décider qu'il doit perdre une journée, deux journées, trois jours de grève,
c'est toujours difficile.
Donc il se prononce par rapport à sa situation personnelle.
Juste Bernard Vivier, sur l'ampleur de la mobilisation contre la loi El Khomri. Deux questions. Mohamed Ousseydik nous dit il y a des salariés du privé. Est-ce qu'il y a beaucoup de salariés du privé qui sont engagés dans cette loi El Khomri? C'est la première question. Et est-ce que le durcissement de la CGT n'est pas dû au fait aussi qu'il y a de moins en moins de monde dans les manifestations chaque semaine dans les rues de Paris et de France?
Nous n'avons pas une convergence des luttes, mais nous avons une addition, une superposition, une juxtaposition d'inquiétudes collectives. Donc oui, les salariés en France sont globalement plutôt inquiets, et donc ils peuvent répondre favorablement à ces manifestations. La prochaine grande manifestation qui sera test, c'est le 14 juin. On est censé jouer au foot.
Normalement, depuis 4 jours.
Voilà. Et le 14 juin, c'est une grosse manifestation. Ça sera la 9e manifestation en un peu plus de 3 mois, presque.
La 8e, c'est après. Demain, c'est jeudi.
Exactement. Donc, ça va être considérable. Bien, maintenant, ces manifestations s'étiolent. Et on voit aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, Force ouvrière n'ont pas cherché une porte de sortie à cette situation, mais ne pas pouvoir fournir aussi des militants et des militants à chaque fois.
C'est pour ça que la CGT aussi cherche peut-être à se durcir ou pas?
Exactement. Parce qu'avec moins de moyens humains, la CGT peut défrayer la chronique.
On va continuer. La CGT fait-elle la loi en France? Avec Bernard Vivier qui est avec nous, qui nous accompagne. Mohamed Ousseydik de la direction de la CGT. L'élu centriste Nicolas Perruchot, auteur d'un rapport il y a quelques années sur le financement des syndicats. Et puis Jean-René Boidron, chef d'entreprise Caméléon. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors la CGT veut-elle faire la loi en France, hein, question qu'on peut se poser donc à l'aune de tous les blocages de raffineries, le conflit qui s'est encore durci aujourd'hui. La CGT prétendant eh bien que la grève a été votée dans 8 raffineries sur 8. Plus en plus de files d'attente dans les stations en service. En tout cas, cette grève, ces blocages menés par la CGT donnent à l'étranger eh bien une image déplorable auprès notamment des grandes sociétés multinationales. Témoignage de Xavier Fontanet, c'est l'ancien président d'Essilor, il est actuellement professeur à HEC, et voilà ce qu'il disait tout à l'heure à Clotilde Hazard.
La CGT se rend pas compte de l'image qu'elle donne de la France à l'étranger. Or, on est dans une économie mondiale dans laquelle énormément de jobs sont le fait d'entreprises internationales qui choisissent entre différents pays, si vous voulez. Donc, quand mettez-vous dans la place d'un Américain ou d'un Japonais qui a 5 ou 6 usines en Europe et qui doit choisir un investissement, quand il voit ça, il va pas mettre l'investissement en France. Mais, et c'est ça qu'on voit dans la dégradation épouvantable des investissements à l'étranger. La France était en deuxième, il y a une dizaine d'années, très très près des Anglais, qui sont le pays qui attire le plus. Et là, ça s'est complètement effondré. Les Allemands nous sont passés devant. Donc il y a énormément de jobs qui se créent à partir d'entreprises multinationales, hein, des vraies entreprises mondiales qui ont besoin d'implantation en Europe pour livrer. Et on est en train de tout perdre avec des trucs comme ça. Et donc il y a une enquête très intéressante de Ernst & Young qui donnait, c'est une coïncidence, hein, parce qu'elle est faite depuis très longtemps, et elle disait que 73% des investisseurs internationaux commencent à se dire la France, c'est pas un pays où investir. Et quand on leur demande pour quelle raison, ben c'est climat social, charge sociale et bureaucratie et impôts. C'est clair et net. Hein.
Xavier Fontanet, ancien patron d'Essilor, professeur HEC, voilà ce qu'il disait tout à l'heure à Clotilde Hazard pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Mohamed Oussedik, secrétaire confédéral de la CGT en charge de l'industrie, vous rendez compte quand même que ce conflit, ça donne une mauvaise image à la France ?
Moi, j'ai pas vu ces derniers jours Toyota se sauver de Valenciennes ou Smart se sauver de Mulhouse ou
de Hambach, en Moselle.
Ouais.
C'est pas grave, c'est le Grand Est.
Les nouvelles régions, vous savez, c'est tellement grand.
Vous avez raison.
Pas très bon en géographie en ce moment. Faut que je révise mes classiques.
Plus à l'est. Allez-y, continuez, Mohamed Oussedik.
Soyons sérieux. C'est pas le climat, entre guillemets, social. D'ailleurs, toutes les enquêtes le diront, il y a moins de situations conflictuelles dans le pays depuis quelques années parce que il y a effectivement un peu plus de négociations, de dialogue social dans les entreprises.
Oui, mais enfin,
le problème, c'est que là où il n'y a pas d'organisation syndicale, parce qu'il y a un champ énorme d'entreprises où il n'y a pas d'organisation syndicale, eh bien il n'y a pas ou très peu de dialogue social et on n'arrive pas à parler des vrais sujets pour les entreprises ici. Les vrais sujets pour notamment les PME, PMI, c'est l'accès au financement, c'est l'accès au marché, c'est effectivement un certain nombre de règles commerciales qu'il faut, fiscales qu'il faut.
C'est autre chose, bien sûr.
C'est ça, la réalité.
Mais vous nous dites, bon,
Toyota débat là où il est.
Oui, Toyota est toujours là, Smart est toujours là, mais quand le PDG de Total, Patrick Pouyanné, menace de réviser sérieusement ses projets d'investissement dans les raffineries françaises, c'est quoi? C'est du chantage? C'est une parole en l'air? Ou est-ce que vous êtes prêt justement à l'entendre?
Non, j'aimerais qu'il révise sérieusement ses projets d'investissement, puisque ça fait un petit moment qu'il n'investit plus. Il ferme d'ailleurs des
mais là, révise à la baisse. Hein.
Il révise et nous, on aimerait qu'il révise à la hausse.
Ah oui, mais là, c'est le contraire. Il menace de partir. Hein.
Malheureusement, on a besoin de carburant, on a besoin de pétrochimie dans ce pays, et on a suffisamment, ce sont les organisations syndicales et notamment la CGT, qui ont permis de proposer un projet sur Chem One, c'est la branche pétrochimique, et qui ont permis de sauver cette filière. C'est pas Total qui, au passage, paye moins d'impôts en France et touche un peu quand même du CICE. Je crois que c'est de l'ordre de 90 millions d'euros.
Moins d'impôts en France parce que grosse partie de leur activité est à l'étranger, vous le savez.
Qui devraient nous donner quand même le plus de leçons dans le domaine.
Jean-René Boisdron, chef d'entreprise, Nicolas Perruchot, auteur d'un rapport sur l'argent des syndicats. Quelle image ça donne, ce conflit ?
Il y a un point sur lequel je suis pas du tout d'accord avec Mohamed Oussedik, qui dit bon, droit de grève, oui, on est bien d'accord, mais vous disiez tout à l'heure droit de grève, on est d'accord, mais par contre blocage des raffineries, ça c'est pas légal. Donc c'est bien là le décalage, c'est quand même bien là le décalage de la CGT. Moi j'ai pas de problème avec le droit de grève,
des blocages. Non mais simplement.
Attendez, ce matin, il a fallu quand même envoyer les forces de l'ordre,
des salariés
pour ouvrir
des camions citernes, des voitures,
etc. Donc il y a
des salariés, contre des salariés de la raffinerie.
En gros,
contre des salariés.
En gros, le droit de droit de grève, d'accord. Empêcher ceux qui veulent travailler de travailler, ça,
René Boisdron, je me tourne vers Bernard Vivier. Juste une question, parce qu'en effet, est-ce que le gouvernement est en droit d'aller débloquer les raffineries? Est-ce que c'est une atteinte au droit de grève? La CGT dit, Nicolas Sarkozy a essayé en 2010, il a été condamné par l'Organisation internationale du travail pour non-respect du droit de grève. Un point de droit, dites-moi.
Un point de droit, il y a deux sujets d'abord. Il est interdit à un employeur d'empêcher des salariés de travailler. Il est interdit à des salariés d'empêcher d'autres salariés de travailler. Ça s'appelle le délit d'entrave à la liberté du travail. Ce qui veut dire concrètement que l'occupation des locaux est illégale et doit faire l'objet et peut faire l'objet d'une évacuation par les forces de l'ordre. Ça, c'est légal. Voilà. Maintenant, il y a une autre question qui, en 2010, a été traitée par la voie de la réquisition, oui, c'est-à-dire le gouvernement a réquisitionné les travailleurs en disant « Vous êtes obligés d'aller travailler ».
D'accord.
Le préfet le fait, et après coup, il y a eu contestation de cette décision, et ceux qui ont contesté ont obtenu raison. Pourquoi ? Parce que la réquisition répond à des critères extrêmement stricts. Il faut véritablement qu'il y ait une atteinte à la salubrité publique, une atteinte à la sécurité publique. Il faut véritablement que les besoins essentiels de la population soient atteints. Alors on pourrait dire aujourd'hui, on peut pas remplir les bidons d'essence. Il y a les besoins essentiels de la population ne sont pas satisfaits.
Ça rentre pas là-dedans.
Ça rentre pas là-dedans.
On n'est pas dans ce cas-là. On
très strict.
On n'est pas dans le cadre de 2010.
Non.
Voilà. Exactement. Donc, juste un point et Jean-René Boisdron, ça continue bien sûr.
Il y a blocage lorsque des salariés empêchent, entre guillemets, d'autres salariés de travailler ou lorsque des salariés extérieurs ou des personnes extérieures empêchent l'accès à des salariés d'entrer sur un site. Ça n'est pas le cas dans les raffineries françaises. Il y a des assemblées générales, des assemblées du personnel qui votent massivement la grève. Donc on entre dans le cadre des réquisitions du personnel qui sont, elles, illégales. Et la violence gratuite, parce que c'est une violence gratuite qui a été faite contre les salariés de Fos-sur-Mer, eh bien, elle a déclenché un autre phénomène, c'est que les raffineries qui n'étaient pas en grève sont entrées dans le mouvement de grève.
Alors, les forces de l'ordre disent avoir rencontré une résistance importante, avec jets de projectiles, feux de palette, de pneus, je cite la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Jean-René Boisdron.
Pourquoi je mentionne ça? Parce que je rebondis sur les propos de Xavier Fontanet. Moi, je pense que des grèves, il n'y en a pas plus en France qu'il y en a en Allemagne ou ailleurs, regardez, parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a qu'en France, comme ça a été rappelé tout à l'heure, à juste titre, le nombre de conflits est en baisse, le nombre de grèves est en baisse, et on n'a pas plus de grèves en France, enfin, d'autres pourront donner les chiffres, qu'il y a en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc le sujet, il n'est pas là. En revanche, le blocage des raffineries, je parle bien de blocage, mais regardez les images, on est bien d'accord. Là, c'est pas la grève, c'est les blocages. Ça, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Et au même titre que les revendications des taxis qui sur la 1 entre Roissy et Paris, bloquer la route, projette une extrême mauvaise image de la France. On est dans ce cas-là exactement dans le même scénario.
Alors Nicolas Perruchot, vous avez signé un rapport sur l'argent des syndicats. Ce qu'on voyait beaucoup cet après-midi sur Twitter, c'est est-ce que c'est normal que la CGT nourrie de fonds publics, comme l'ensemble des syndicats, c'est pas la CGT uniquement, eh bien bloque les Français, bloque les stations-service.
Je crois que je suis pas sûr que ce soit la bonne question. La question qui était posée tout à l'heure par Xavier Fontanet est intéressante. Quelle image ça donne de la France à l'intérieur? C'est une très mauvaise image, c'est sûr. On l'avait déjà vu avec l'épisode de l'ancien DRH d'Air France, où je rappelle que
la chemise arrachée
a fait le tour du web et donc le tour du monde assez rapidement. Et ça c'est évidemment quelque chose d'assez. Je reviens pas sur ce conflit-là parce que
les salariés d'ailleurs seront jugés vendredi donc à Bobigny.
Très souvent on a affaire à ces difficultés. Deuxième élément, c'est que et quand on fait un comparatif avec l'Allemagne, avec les pays européens du Nord, avec d'autres pays dans lesquels le syndicalisme est aussi développé que chez nous, il y a un point en France, c'est le pluralisme syndical, qui est une autre idée qui s'est développée depuis très longtemps, qu'on a considérée comme une bonne idée, et moi je trouve que c'est une très mauvaise idée. La preuve, il faut discuter avec 7 ou 8 organisations de salariés, avec 3, 4 ou 5 organisations patronales, on n'arrive jamais à se mettre d'accord avec tous ces gens-là, et donc on finit souvent par des questions de conflit, ou par trancher et faire beaucoup de mécontents. Bon, dernier point, la CGT est forte depuis 30 ans en France, quand le pouvoir politique est faible. C'est une constante. C'est systématiquement comme ça. Et quand on regarde l'histoire du syndicalisme, ça s'est toujours avéré être vrai. Donc on a aussi cette difficulté. Il faut un pouvoir politique qui dit clairement ce qu'il souhaite faire, notamment sur le code du travail. Le sujet, c'est est-ce que la CGT fait la loi en France? Oui, comme la CFDT parfois l'a fait, comme d'autres syndicats la font, puisque le code du travail, ça nécessite d'abord pour le Parlement de discuter, de dialoguer avec les organisations syndicales et patronales. Bon, donc ça c'est la règle, et il faut l'accepter ou pas l'accepter. Si on l'accepte pas, on fait tout le code. Et celles et ceux ceux qui disent que demain ça sera le grand soir du code du travail, moi j'y crois pas du tout. Je pense qu'on continuera à fonctionner comme ça. C'est heureux ou malheureux, mais c'est un fait. Donc il faut reprendre et comprendre l'histoire du dialogue social et faire en sorte qu'on puisse essayer de l'adapter ou de le moderniser. Là où je suis plutôt inquiet, y compris pour les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou de salariés, c'est sur ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Je trouve que les syndicats en France ne sont pas du tout en face avec ce qui se passe sur cette globalisation et sur ces évolutions de mode de travail qui vont, à mon avis, complètement contrecarrer ce qu'ils souhaitent eux, c'est-à-dire avoir la main sur un code et faire en sorte que ça bouge plus et que ça ne passe que par des évolutions qui seront négociées avec eux. Je pense que les salariés, d'ailleurs, sont en train de démontrer qu'ils peuvent s'affranchir de ces règles.
L'homme des start-up, qui est Jean-René Boidron.
Oui, bien sûr. Bah, l'ubérisation, c'est le prolongement aussi nouvelles formes de travail. Il y a déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'ailleurs, on voit... Malheureusement, on peut dire malheureusement, hein, si on reprend vos termes, le syndicalisme s'est tiolé, hein, finalement. Hein. Quand on regarde le nombre de personnes qui sont dans les syndicats aujourd'hui, si on prend par rapport à 50 ans, c'est 75% de la base qui est partie.
C'est ça, Bernard Vivier. Combien d'adhérents actuellement aujourd'hui en France dans les syndicats?
Aujourd'hui, nous avons 3 fois moins de syndiqués qu'il y a 30 ans. Le chiffre est facile à retenir. Donc, toute tendance syndicale confondue, on peut estimer à environ 2 millions de salariés le nombre de salariés syndiqués. Ce qui n'est pas du tout négligeable quand on sait que en France, à la différence des autres pays, quand on se syndique ou quand on ne se syndique pas, on reçoit les mêmes avantages par la grève pour les uns, pour la négociation pour les autres. Et donc, c'est un noyau actif, dur, de militants, de permanents, beaucoup plus que de simples adhérents, alors que dans d'autres pays, le taux de syndicalisation peut monter à 30, 40, 50, 75% dans les pays scandinaves.
Oui, mais il y a beaucoup moins. La CGT, moins... elle pèse combien, la CGT?
Juste. La CGT a aujourd'hui...
On parle d'à peu près 700 000 adhérents.
688 000 adhérents, à peu près.
5 millions 5 en 46.
Depuis 10 ans.
Et 1 million 5
millions 5 millions 5 en 1946.
Ouais, c'était exceptionnel.
Oui, mais ce sont les chiffres.
Énormément dans la fonction.
Et pour prolonger ce que vient de dire Bernard Vivier, 3 fois moins de salariés syndiqués, mais 20 fois plus de moyens qu'on a donné aux organisations dans cette même période. Donc il y a aussi là, à mon avis, un nœud.
Ce que vous expliquez, juste je donne un chiffre et je donne la parole à Mohamed Oussedik, ce que vous expliquez dans votre rapport, il n'a jamais été publié officiellement, mais quand même trouvé sur Internet, que les syndicats touchent 4,5 milliards d'euros par an. Et depuis les années 50, on a divisé par 4 le nombre de personnes syndiquées.
Dont 3,5 milliards viennent des entreprises, hein, principalement.
Et on a multiplié par 20 les moyens que l'on donne aux organisations syndicales et patronales, bien sûr. Mohamed Oussedik de la CGT,
d'abord,
la direction de la CGT.
Sur les 4 milliards, effectivement, on mélange tout. On mélange les mandats des représentants syndicaux dans les entreprises.
C'était le coût du dialogue social.
Il y a tout un amalgame sur l'ensemble. On rentre pas dans un rapport qui, de toute façon, n'est pas officiel. Donc, c'est pas le sujet. Par contre, sur le taux de syndicalisation, d'abord, les derniers chiffres, c'est 11%. C'est pas 8%, c'est 11%. Donc, il remonte. Les taux de syndicalisation remontent dans ce pays.
Quelle part dans le public, quelle part dans le privé?
On est globalement, je crois que c'est de l'ordre d'un peu autour de 20%
dans le privé.
Dans le public. Dans le public et c'est autour de 9-10% dans le privé.
C'est 4 ou 5.
Moi. Non. C'est les derniers chiffres. Ils datent d'il y a une dizaine de jours. C'est à peu près ça. Mais bref, c'est encore trop.
Bon, juste Bernard,
il y a un autre chiffre qu'il faut citer. C'est quand même que sur les élections de représentativité dans les comités d'entreprise, il y a plus de 60% des salariés qui participent lorsqu'ils en ont les moyens, lorsqu'ils ont un comité d'entreprise et des organisations syndicales qui participent au scrutin. Je veux juste mettre en parallèle, parce que c'est facile de décrier les organisations syndicales, donnez-moi le taux d'adhésion dans les partis politiques. Bon, je passe, je donne pas le chiffre.
Oui, bien sûr,
donnez-nous le nombre de retraités qui sont adhérents de la CGT à ce moment-là.
Mais il y a 100 000.
Il y en a aussi.
Il y a 100 000 pour 700 000.
C'est bientôt fini. Hein.
Juste là-dessus. Donc, c'est la légitimité des organisations syndicales. Oui, on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il faut. Mais il y a surtout beaucoup de travail à faire en face. C'est-à-dire que on souhaite une responsabilisation et des organisations syndicales beaucoup plus fortes. Eh bien, il faut que ces organisations syndicales, elles puissent aussi intervenir dans les bons endroits.
endroits, les endroits stratégiques de l'entreprise. Il y a eu des premiers pas qui ont été faits sur les conseils d'administration, les comités des rémunérations, etc. Allons beaucoup plus loin, comme en Allemagne. Allons beaucoup plus loin. Faisons-le à ce moment-là.
En Allemagne,
mais faisons,
c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ?
Mais faisons. Mais il y a un comité d'entreprise à partir de 5 salariés. Il y a des conseils de surveillance à parité entre organisations syndicales et patronales.
Jean-René Boisdron.
Voilà aussi une des clés du dialogue social dans le pays qui malheureusement aujourd'hui on tire sur le terme
Jean-René Boisdron,
mais pas
chacun son tour pour terminer.
Vous avez dit que justement si vous vouliez donc accroître
sur l'ubérisation
des syndicats que vous défendez, vous ayez peu d'écoute quand même auprès des salariés et notamment des jeunes qui arrivent aujourd'hui, notamment quand on regarde la loi El Khomri aujourd'hui. Que contestez-vous dans la loi El Khomri ? Il n'en reste pas grand-chose, mais que contestez-vous ? C'est l'inversion de la hiérarchie des normes.
Oui.
Et je pense qu'on est dans une société où lentement, mais sûrement, enfin c'est même d'ailleurs plus rapidement qu'on ne le croit, c'est-à-dire les gens veulent que des décisions soient prises au niveau des entreprises. Et ils ne sont pas dans une logique mais où c'est une logique systématiquement centrale.
Donc c'est vous êtes dans une erreur.
Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans.
C'est là que vous faites erreur.
Je vois un petit peu l'évolution et les attentes des salariés.
Bon, on va pas refaire le débat sur la loi El Khomri.
Juste un mot.
Enfin, c'est quand même le fond du sujet, en effet.
Notre modèle social fait que
imposé à
nous
tous
faisons
la même façon de faire. Non, c'est pas quelque
c'est
chose
pas
qui
une
est accepté.
C'est pas vrai que c'est imposé. Nous faisons des négociations dans les branches parce que nous négocions pour l'ensemble des salariés. C'est important. Nous négocions pas pour nos adhérents. Et grâce à ce système, d'abord les négociations de branche, très souvent il y a une négociation pour les petites entreprises et une négociation pour les grandes. C'est toujours comme ça dans un accord, toujours comme ça. Ensuite, lorsqu'il est étendu, c'est un cadre. Et donc on incite à des négociations d'entreprises. Simplement, pour éviter du dumping social, il y a un cadre. Je vous rappelle que dans les branches, il y a les employeurs et les entreprises et les organisations. Donc ça veut dire que ceux qui négocient, négocient dans les branches ne connaissent pas leurs propres entreprises. Ça, c'est méconnaître la réalité de la négociation de branches dans le pays.
Dans ce contexte, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de choses dans la loi El Khomri. Est-ce que ça vaut le coup, franchement?
Non, mais il y aura sans doute pas les décrets.
François Hollande s'en faire sur ce texte. Emmanuel Valls.
Je ne sais pas comment François Hollande va sortir de ce guépier dans lequel il s'est fourré tout seul. Parce qu'il faut quand même dire les choses. Ce que je sens, en tout cas, j'ai été parlementaire pendant 10 ans, c'est qu'il n'y aura pas les décrets sur cette loi. Si la loi est maintenue, avec le 49.3 et les conditions que vous connaissez tous, je pense qu'il n'y aura pas les décrets. On passera très vite à l'élection présidentielle
et au
projet des différents candidats et on oubliera cette loi. Et je pense qu'il n'y aura pas les décrets.
Bernard Vivier, Docker, routier, la SNCF, encore demain. Il y a des grèves également dans les contrôles chez les contrôleurs aériens, la DGAC, je crois. Donc c'est jeudi avec des perturbations à Orly. Les raffineries, les dépôts de carburant, c'est quoi l'avenir de tous ces mouvements ?
Pour l'instant, c'est une crispation dont on ne voit pas l'issue. Il y a une radicalisation très forte, une image très négative du syndicalisme dans notre pays, alors que le syndicalisme a besoin d'exister ailleurs en Europe. Il est très puissant, il est même beaucoup plus riche qu'en France, mais il est centré sur la construction de l'économie et sur la consolidation de l'entreprise dans les marchés mondiaux, et non pas dans la destruction et la négation de l'entreprise. C'est toute la différence. Un syndicalisme de réforme et de négociation, et non pas un syndicalisme de grève et de séquestration.
Il est aussi plus indépendant financièrement dans les autres pays.
Mohamed Oussédic, à un moment, est-ce que vous n'aurez pas l'opinion contre vous, les Français qui travaillent, ceux qui mettent de l'essence, ceux qui veulent voir des matchs au moment de l'euro ?
Ceux qui sont dans l'opinion publique aujourd'hui, ce sont ceux qui sont dans les entreprises, qui manifestent, qui rejettent cette loi. Et donc, la solution de sagesse aujourd'hui, c'est que François Hollande prenne la mesure de ce qui est en train de se passer dans le pays. Dise, je suspends, parce qu'il a un peu de temps entre maintenant...
Il est mort s'il
entre le fait. Entre maintenant... Non mais
il a déjà reculé sur la déchéance de nationalité.
Il suffit pas de suspendre ou de retirer. Ouais. Et de dire, j'entame de vraies négociations avec toutes les organisations syndicales et patronales, et je débouche sur une loi qui soit digne de ce pays et qui protège les salariés.
Dans 11 mois, l'élection présidentielle. Impossible, de ce pays. J'ai l'impression. Merci Mohamed Oussédic, secrétaire confédéral de la CGT en charge de l'industrie. Bernard Vivier, directeur
de l'Institut supérieur du travail, Nicolas Perruchot, élu centriste du département du Loir-et-Cher, qui avait sorti donc ce rapport sur l'argent des syndicats, et puis chef d'entreprise Jean-René Boidron à la tête de Caméléon. Vous restez avec les décodeurs de l'écho. Oui, on a parlé de blocage. Il y a ce rapport EY également qui montre une baisse de l'attractivité de la France. Mais vous verrez qu'on peut croire malgré tout au potentiel de la France. Il y a un certain nombre d'actualités aujourd'hui dans les entreprises, chez Seb, Air France, Safran, PSA notamment, qui montrent bien qu'on peut rester en France, qu'on peut créer des emplois en France. Restez avec nous avec les décodeurs de l'écho. Bonne soirée sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.